On va continuer notre méditation sur la bonne année. Il me reste encore 2 dimanches. Heureusement que le mois de janvier 2016 a 5 dimanches, c'était bien. Et comme il y a dans notre culture, on a droit, tu peux déplacer un petit peu sur la droite. Ouais, tu cliques. Voilà, super. On va continuer donc sur la notion de 2016. Alors, on avait vu que nous sommes appelés à bénir. Nous avons la part en Jésus, nous avons tout pleinement et nous avons la possibilité de vivre la paix et la joie. Nous avons là en lui la possibilité de vivre l'espérance. Nous avons que en lui nous avons des promesses pour notre santé, la prospérité. Et j'en oublie la semaine dernière, la réussite, le succès, sachant qu'un échec n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste un événement qui est différent de celui prévu. Mais sur les 2 dimanches qui vont suivre, on va aujourd'hui et la semaine prochaine, je voudrais aussi nous donner les moyens de vivre une bonne année. Comme on disait, c'est facile de dire à quelqu'un « bon appétit » quand il a quelque chose dans son assiette. Mais dire à quelqu'un « bon appétit » alors qu'il meurt de faim, c'est un peu compliqué. Dire aux gens « soyez bénis, hein, bonne année !» alors qu'eux-mêmes n'ont aucune solution pour vivre cette bonne année, c'est un peu compliqué. Alors, aujourd'hui et dimanche prochain, je voudrais qu'on puisse méditer sur les éléments essentiels, indispensables, le béaba pour pouvoir vivre une bonne année. Et là, je dirais même une bonne année avec un S, mais ça ne s'entend pas quand on dit bonne année en français, mais 2 bonnes années. Je vous invite à ouvrir votre Bible, ce sera vraiment le verset de résumé, mais évidemment, il y en a beaucoup, en Jude. Alors Jude, c'est le livre qui précède Apocalypse, donc vous allez le trouver facilement. Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Donc, directement au verset 20, Jude, verset 20, il y a dans ce verset tout ce qui est contenu et nécessaire pour notre méditation et pour le premier point concret pour connaître une bonne année ou 2 bonnes années. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.
Amen.
Si nous vivons ce simple verset, nous allons pouvoir tout vivre. Alors, on ne va pas tout décortiquer, même si effectivement, nous allons aborder la notion de se maintenir dans l'amour de Dieu. J'ouvre juste la parenthèse, mais vous pouvez voir que dans ce verset, il n'est pas seulement parlé de l'amour, il est aussi parlé de notre très sainte foi. Donc, c'est-à-dire l'attachement à la parole de Dieu. Il nous est parlé de la personne de Jésus. Il nous est parlé de notre édification, donc de nos sanctifications. Mais un des éléments indispensables, avant tous les autres, c'est que nous puissions nous maintenir dans l'amour de Dieu. L'amour, c'est plus qu'un commandement, c'est une nécessité. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit quoi ? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est un commandement. C'est un commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sachez que ce commandement-là était déjà dans le livre de Lévitique. Là, ce que je voulais dire, c'est Lévitique 19-18. C'est pas une nouveauté. Quand Jésus résume toute la loi en disant, voilà, quel est le plus grand des commandements ? Le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus dit. Le commandement d'aimer son prochain est le commencement de tout. C'est dans le cœur de Dieu. Dieu est amour et c'est l'ultime commandement depuis toujours, depuis toujours. D'ailleurs, quand même, il va dire quelque chose d'étonnant, Jésus. En Jean chapitre 13, verset 34, il va quand même dire « Je vous donne un commandement nouveau. » Et c'est lequel ? « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et là, on pourrait dire « Mais attends, c'est bizarre. » Parce que depuis toujours, Dieu nous demande d'aimer. Et puis voilà que Jésus va dire à ses disciples, c'est un commandement nouveau. Il y a même un peu, si vous prenez le temps de lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 7 et 8, même Jean, il est un peu déstabilisé parce qu'il va dire, bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis, que je vous écris. Et puis le verset d'après, il dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Alors on dit, mais vous êtes un peu cinglés, vous les chrétiens. On va prendre le temps un peu de réfléchir là-dessus. Parce que notre méditation de ce matin ne va pas seulement être portée sur l'amour que nous devons avoir vis-à-vis des autres. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant et dans lequel nous devons nous maintenir. Avant, le peuple de Dieu avait une loi. Et cette loi, Jésus la résume, il dit, cette loi-là, elle se résume par tu aimeras ton prochain. Mais il va dire à ses disciples, mais je vous donne un commandement nouveau, tu aimeras. C'est pareil. Textuellement, c'est pareil. Mais il y a une grande différence. Parce qu'avant, c'était la loi que le peuple de Dieu devait obéir, à laquelle elle devait obéir, et c'est par la pratique de cette loi qu'elle apprenait ce que signifiait le aimer. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne tromperas pas. Tout ça, ce sont les actes qui révèlent de l'amour. Mais c'est la loi, c'est par la loi que les gens apprenaient l'amour. Le commandement nouveau, c'est que ce n'est pas par la loi qu'on doit apprendre à aimer, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui a changé notre cœur, qui nous pousse à aimer. Vous voyez la différence. Un enfant de 1 an, 2 ans, quand il dit merci, bonjour, il n'est pas poli. Un enfant qui de 2 ans, d'un an, qui dit merci, il n'a pas la conscience de la politesse, vous savez. Pourquoi il le fait? Parce qu'on lui demande de le faire. Parce qu'il s'amuse à le faire. C'est de l'amusement pour lui. Il n'a pas la conscience de la politesse. Vous savez, c'est pour ça qu'après, il peut vous mettre une gifle 2 secondes après. Hein. Parce que pour lui, la notion du bien, du mal, ça lui échappe. Mais on va lui apprendre à faire pour que plus tard, il apprenne la politesse. Et au travers de la politesse, c'est le respect du prochain, la considération de l'autre. C'est pour ça qu'on a des actes de politesse. C'est pas pour meubler le vide. C'est afin de considérer la personne de l'autre. On est d'accord? Mais quand la personne devient grande, mature, et qu'elle réalise les choses par elle-même, est-ce qu'on a encore besoin de vous dire, il faut dire bonjour, il faut dire merci? Pas du tout, au contraire. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon la loi. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aime Philippe, oh, franchement, waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes comme boulot là? C'est dur. Ça, c'est l'ancien commandement. Alors bon, comme la loi me dit, je t'aime, hein, Philippe, hein. Je vais t'embrasser ce matin, mais... C'est parce que je suis obligé. Est-ce que nous sommes obligés de quoi que ce soit? Non. Mais le commandement nouveau, c'est que l'Esprit de Dieu qui a fait de nous de nouvelles créatures a mis en nous l'amour de Dieu. Amen. Et en ce sens, c'est nouveau. Je vais aimer Philippe, même avec toutes les crasses qu'il me fait. Philippe, je t'aime encore. Tu peux me faire tout ce que tu... Marche-moi sur les pieds. Continue de dire des saloperies sur moi. Je t'aime, Philippe. Et je décide de t'aimer. Le commandement, il est nouveau à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est dit que celui qui haït son frère fait Dieu menteur. Vous comprenez? Si je n'aime pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même que je défigure. Nul ne peut dire j'aime Dieu et je déteste mon frère parce qu'il fait Dieu menteur. Donc là, il y a une grande erreur dont nous devons faire attention et à laquelle nous devons éviter. Si nous voulons effectivement connaître une bonne année, nous devons nous maintenir dans l'amour de Dieu. Nous avons besoin, mes bien-aimés. Et là, je vais non pas axer sur nous notre nécessité de prouver notre amour à l'égard des autres. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Il n'est pas question dans notre vie de dire aux autres que nous les aimons. Mais ce sont les autres qui doivent se sentir aimés. Je peux vous dire et faire là, on prend Philippe en exemple. Oh, j'aime Philippe, j'aime Philippe. Mais si en même temps que je parle, Philippe, dans son cœur, se dit moi, Benoît, il me parle d'amour, mais moi, je ne sens pas son amour. Dieu est juge.
Amen.
Oui.
Amen.
Et je suis menteur. Tu peux pas de dire à nos enfants, je t'aime. Il faut que nos enfants se sentent aimés. Il faut que mon épouse se sente aimée. Il faut que les gens de l'extérieur se sentent aimés. Il ne suffit pas de le dire. Nous avons besoin pour cela de demeurer dans l'amour de Dieu.
Amen.
Hier, c'était la loi qui nous dictait ce que nous devions faire pour prouver aux autres que nous les aimions. Nous, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, canalisés, communiqués par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous ne sommes incapables de communiquer l'amour si nous ne sommes pas imprégnés de cet amour. Nous ne pouvons pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et le premier des commandements, qui est celui d'aimer son prochain, commence inévitablement déjà par le fait que moi je sois au bénéfice de l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Si vous voulez connaître une bonne année 2016, maintenons-nous, demeurons, savourons, exploitons, soyez au bénéfice de l'amour de Dieu. Nous serons incapables d'aimer notre prochain avec cette intensité si nous-mêmes, nous ne savons pas aimer de Dieu. Impossible. Impossible. Et c'est là ce que je voudrais que nous puissions développer ce matin. Nous avons besoin, mes bien-aimés, de vivre cet amour de Dieu. Nous avons besoin de sentir l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être bouleversés de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de demeurer dans cette relation où la présence de Dieu élargit nos cœurs, où on se sent mais quelque chose de précieux. On a besoin encore, chaque jour, de pleurer de l'amour de Dieu. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pleuré en ressentant l'amour de Dieu dans votre cœur? On est capable de pleurer pour des tristesses, ça, je ne sais pas, ces larmes-là que je parle. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas vécu ce temps où la présence de Dieu dans votre cœur était tellement manifeste, tellement gracieuse, tellement bonne, tellement savoureuse, que vous disiez, mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Mais ça vous a forcé à des larmes, tellement cet amour était là, palpable dans votre être intérieur, dans votre âme, dans votre cœur. C'est cet amour-là, c'est dans cet amour-là qu'on doit se maintenir. Pas seulement dans, oh, Dieu m'aime, alléluia, c'est super, mais cet amour qui nous bouleverse de l'intérieur, cet amour qui nous émeut, cet amour qui fait que notre cœur est changé, parce que c'est que l'amour, l'immense amour de Dieu qui nous transforme et qui nous change. Si nous ne nous maintenons pas dans cet amour de Dieu, nous ne ferons aucun progrès spirituel. Nous sommes appelés, mes bien-aimés, avant toute chose, à nous maintenir dans l'amour de Dieu. En Luc chapitre 7, verset 47, vous savez, c'est ce passage-là où Jésus est invité chez un pharisien, un religieux, quelqu'un qui connaît très bien la parole de Dieu. Il invite Jésus à manger chez lui, ils sont là, discutent tranquillement. Puis il y a cette femme, cette prostituée qui se jette aux pieds de Jésus. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Je dis, mais qu'est-ce que cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle fait à pleurer? Mais elle pleure de quoi? Elle pleure parce qu'elle a réalisé l'amour de Dieu qu'elle a pour. Et la grande leçon que Jésus va dire à ce pharisien, il dit, tu sais, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et nous, c'est pareil. Plus nous nous sentirons pardonnés, aimés de Dieu, plus nous manifesterons de l'amour pour les autres. D'où cette nécessité de demeurer dans cet amour. Dieu nous a donné ce premier commandement. Dieu nous a aimé le premier, 1 Jean chapitre 4, verset 10. Et ce commandement, ce verset, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, mais l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous aimons Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimé le premier. C'est ça. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous sommes capables de dire les choses, mais l'amour de Dieu consiste en ce que lui-même nous a aimé le premier. Et alors nous sommes capables d'aimer notre prochain. Nous sommes appelés à demeurer non pas seulement dans l'amour, mais dans l'amour de Dieu. Jean chapitre 5, verset 42, c'est une phrase terrible. C'est Jésus qui, avec des religieux, et que nous puissions nous positionner, est-ce que je suis un aimé de Dieu, un amoureux de Dieu, ou est-ce que je suis qu'un religieux? Et Jésus va poser cette question, Jean chapitre 5, verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. » Vous vous rendez compte? Jésus discute avec des hommes, des religieux, certainement bien plus religieux que vous et moi réunis, stricts, observants de la loi. Et Jésus va leur dire, vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Peut-être que vous vous donnez bonne conscience. Peut-être que tu te justifies. Peut-être que pour toi, tout va bien. Mais Jésus sait. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Il n'y a pas cet amour débordant. Il n'y a pas ce flot, il n'y a pas cette ardeur, il n'y a pas ce feu, il n'y a pas cette hardiesse, il n'y a pas ce débordement, il n'y a pas cet éblouissement, il n'y a pas cet émerveillement, il n'y a pas cette satisfaction de l'amour de Dieu dans ton cœur, il n'y a pas. Tu le sais avec ta tête, mais ton cœur est froid. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, mes bien-aimés, nous serons toujours dans la frustration. Toujours. Comme le disait Willy dans sa prière, il prenait ces exemples de David, d'Adam, Ève, qui ne se satisfaisaient jamais de ce qu'ils avaient et qui ont tout perdu en finalité. Et le petit chant qu'on a chanté, il disait quoi? Il n'y a pas de plus grand amour, non? Je n'ai besoin de rien. Mais est-ce que c'est vrai? Si l'amour, si nous demeurons dans l'amour de Dieu, c'est vrai. Parce que quand on en a ces moments de présent de l'amour de Dieu qui élargit, qui remplit tout notre être, alors on peut dire, j'ai besoin de rien, Seigneur. Ton amour me comble. Ton amour remplit chaque petit coin de mon être. Je suis béni, je suis satisfait, je suis comblé. Mais si nous n'avons pas ça, nous sommes toujours frustrés. Nous vivons, mais il y a une langueur. Il y a de l'ennui dans notre être intérieur. Et comme nous sommes toujours frustrés, nous sommes toujours un peu dans la déception. Et qu'est-ce qui va avec la déception? Mais il y a le jugement, toujours, c'est inévitable. Il y a des trucs comme ça, c'est des packs. Hein, comme quand on achète toujours la télé, on a la télé, le téléphone, le mais je veux juste ça. Non, c'est tout ou rien, monsieur. Ah bon? Mais ne dites pas, oh, moi je suis un peu frustré. S'il y a de la frustration, il y aura de la déception. S'il y a de la déception, il y a du jugement. S'il y a du jugement, il y a de l'amertume. Tout ça, c'est le même potage. Si nous n'avons pas l'amour, alors nous allons chercher cet amour ailleurs. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu est amour, il nous a créés à son image. Nous avons besoin d'amour. Nul ne peut vivre sans amour. C'est impossible. Impossible. J'ai peut-être déjà raconté cet enfant qui était venu au monde. Et sa maman ne voulait pas de cet enfant. Cet enfant, par manque d'amour, se laissait mourir. L'amour est vital. Personne ne peut vivre sans amour. Mais le plus grand, le premier des amours qu'on a besoin, nous maintenant adultes et chrétiens, c'est de réaliser, de demeurer dans l'amour. Amen. Parce que quand nous n'avons plus cet amour-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le chercher ailleurs. On va le chercher chez les hommes. Je ne parle pas là d'amour sentimental, hein. Mais on va chercher là l'approbation des autres. On va chercher à être flatté. On va chercher à être apprécié. On va chercher à ce que ce soit l'estime des autres qui comble ce manque. Mais c'est un leurre. Nous cherchons la reconnaissance. Alors ça va passer dans tout, le travail, le sport, les copains, la réputation, les sorties, les exploits, la manière d'être, de paraître. Et on devient esclave de toutes ces choses-là. Et notre cœur reste toujours insatisfait. Si nous n'avons pas l'amour, si nous ne demeurons pas dans cet amour, alors chaque jour qui passe, nous ne savons pas l'apprécier. Nous considérons le passé avec nostalgie ou déception, ça dépend. Et puis nous regardons toujours l'avenir, là encore, avec espérance ou désabusement. Mais nous ne savons pas nous satisfaire de chaque journée. Parce que notre cœur vit constamment dans la frustration. Alors chaque jour passe. Mais nous manquons même de saisir les bonnes occasions. Nous manquons les opportunités, nous manquons la joie, nous passons à côté de chaque jour parce que nous ne savons pas apprécier le moment présent. Parce que notre cœur est empêtré dans un manque d'amour. Le manque d'amour de Dieu nous empêche même de comprendre la parole de Dieu. Le manque d'amour de Dieu nous empêche de vivre la dimension surnaturelle. Vous vous rappelez là les dons spirituels? Qu'est-ce qu'il va nous expliquer, Paul? Il faut être très spirituel, il faut prier 5 heures par jour, il faut jeûner. C'est ça qu'il dit? Je vais vous montrer un chemin par excellence, l'amour. Si nous ne demeurons pas, si nous ne nous maintenons pas dans l'amour de Dieu, nous passons à côté même des bénédictions spirituelles. L'amour de Dieu, c'est la réponse à tous nos combats. Je vous invite à lire avec moi Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 36. L'amour de Dieu est la réponse dans toutes nos luttes, dans toutes nos blessures, dans toutes nos souffrances. L'amour de Dieu est la réponse à toutes les menaces que nous pouvons connaître intérieurement, psychiquement, physiquement. Verset 36, il est écrit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce qu'on est bien dans nos baskets quand on est dans cet état-là? Est-ce qu'on est bien dans nos baskets quand on sent la mort, le malaise, la menace? Non! On se sent au contraire écrasé, petit. Mais le verset 17 dit quoi? Mais! Ça y est, il y a quelque chose qui va changer. Mais! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que... Comment j'ai pas entendu? Nous sommes plus que... Plus que... Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, j'ai la certitude, j'ai la conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, là il parle des dominations démoniaques, ni les choses présentes, ni les choses à venir, vous rappelez, on parlait du passé, du présent, de l'avenir, rien de toutes ces choses, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu est la réponse à tous nos combats, mes bien-aimés. Ne cherchez pas là des solutions à gauche, à droite. Votre solution dans vos combats, dans vos luttes, dans vos morts, dans vos échecs, dans vos déceptions, dans ce qui vous détruit, se trouvera dans ce maintien dans l'amour de Dieu. Dans cette visitation de Dieu dans votre cœur, dans cet élargissement de votre être. Nous voulons passer une bonne année 2016, il faut commencer par là. Être dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort que toutes nos craintes. Parce qu'il nous est dit que l'amour bannit les peurs, bannit la crainte. Tu as peur de quelque chose? Cherche l'amour de Dieu, laisse-toi bouleverser, rempli. Parce que là où il y a l'amour de Dieu, ça dynamite tes peurs. L'amour de Dieu est plus fort que l'amour, que la mort, pardonnez-moi. L'amour de Dieu est plus fort que tout esprit de jugement, de critique, de culpabilité. C'est ce qui est écrit. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mon frère, ma soeur, on me dit ça, et au travail c'est ça, et mon mari me dit ça, et mes enfants me regardent comme ça, et on me critique, on me juge. Je serai toujours là pour écouter vos plaintes, mais j'aurai aucune possibilité de changer, de vous satisfaire. Mais un instant dans l'amour de Dieu,
amen,
cicatrisera toutes ces blessures,
alléluia,
toutes ces griffes, toutes ces méchancetés, tous ces bruits qui viennent et qui sont là comme des menaces. Au nom de Jésus, dans l'amour de Dieu, il y a là un baume restaurateur, une puissance de vie qui remplit nos cœurs et qui font fermer la bouche à toutes ces autorités, ces dominations. L'amour de Dieu guérit les blessures les plus profondes, mes bien-aimés. les plus profondes. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps parce qu'ils vivent encore avec la culpabilité, avec le non-pardon, avec des frustrations. Quand l'amour de Dieu nous visite, il guérit notre âme. Il y a même des guérisons physiques qui s'accompagnent. L'amour de Dieu détruit le manque de pardon. Parce que le pardon n'est pas une simple coup de baguette magique. Le pardon, c'est un processus. Mais pour avancer dans ce processus-là, il faut se laisser remplir de l'amour de Dieu. Il faut se sentir aimé de Dieu. Parce que quand on se sent aimé de Dieu, et on a envie de pardonner.
Amen.
On capitule, on baisse les armes. Quand on goûte l'amour de Dieu, mais on se dit, mais pardon Seigneur d'avoir perdu mon temps, mon énergie, mes pensées à toutes ces chimères. Qui est-ce que je suis pour que moi tu m'aimes ? L'amour de Dieu est une puissance pour chasser toutes les zones de ténèbres dans notre cœur. Mais ce n'est pas seulement votre pasteur qui vous encourage. Mais c'est Dieu qui nous invite à goûter à son amour. C'est lui-même qui le veut. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une technique. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, dit Jésus. Venez. Tu te sens fatigué, chargé. Tu t'ennuies de ta vie. T'es dans cette morosité, dans cette langueur. Tu sens que tu patines dans ta vie. Viens. Viens avec moi. Mets-toi tout proche de moi, sans la chaleur, sans le courant de mon esprit sur toi, ce souffle. Quand on est loin de quelqu'un, on ne sent pas tout ça. Mais plus on se rapproche de la personne, et plus on sent la chaleur de son corps, on entend la respiration de son souffle, on sent même son cœur battre, et plus on est proche de la personne, et plus on se fait du bien. Il y a tant d'images comme ça, comme le prophète Élisée, qui s'était couché de tout son corps, qui avait mis sa bouche sur la bouche de cet enfant qui était mort depuis plusieurs jours. Et par ce contact, par ce souffle, cet enfant est revenu à la vie. Peut-être que quelqu'un se sent comme mort depuis bien longtemps. Laissez l'amour de Dieu réchauffer. Laissez l'amour de Dieu vous pénétrer. Laissez l'amour de Dieu vous redonner la vie d'en haut. Hébreux chapitre 12, 43, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à cela. C'est mon devoir de veiller à ce que chacun d'entre vous soyez là, connecté à l'amour de Dieu. Mais nous devrions chacun mutuellement veiller, mon frère. Est-ce que tu as senti la présence de Dieu ce matin ? Ma sœur, est-ce que ce matin t'as eu ta dose d'amour de Dieu? Un pasteur disait, si vous n'avez pas parlé en langue aujourd'hui, c'est pas bon. Il disait, il faut parler en langue tous les jours. Maintenez-vous dans cette relation. Maintenez-vous dans cette intimité. Jean, chapitre 4. Quiconque boit de cette eau a encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne goûter à l'amour de Dieu. Il n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
Amen.
On a besoin de recevoir de l'eau du Seigneur. On a besoin de recevoir sa présence. On a besoin de recevoir de son amour. Approchez-vous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il faut que nous nous approchions de Dieu de tout notre être, de tout notre être, l'esprit, l'âme, le corps. Seigneur, je veux vraiment être inondé de ton amour. Comment? Nous avons lu la solution dans 1 Jude 20, mais il est bon de le rappeler. C'est par le canal du Saint-Esprit. Vous pouvez entendre toutes les prédications. Les prédications ne seront qu'une étincelle. La flamme, c'est le Seigneur. Amen.
Amen. Amen.
Dans un briquet, il faut l'essence, mais il faut la petite pierre, là. La prédication n'est que la petite pierre. Mais il faut laisser l'huile de l'esprit nous enflammer.
Amen.
Romains chapitre 5, verset 5, il nous est dit que l'amour de Dieu et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est communiqué par le Saint-Esprit. Y a-t-il des gens ici qui sont nés de nouveau? Je peux voir les mains se lever? Ok? Une bonne majorité. Qui a fait que vous soyez nés de nouveau? Dieu, comment? Par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Donc vous avez l'Esprit de Dieu en vous. L'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Que personne ce matin ne se dise, mais l'amour de Dieu, je peux pas le vivre, c'est pas possible. On va le voir tout à l'heure. Si vous avez déjà reçu l'Esprit de Dieu qui a commencé cette œuvre de transformation, Jésus nous dit que cette œuvre, il l'amènera à sa perfection. Et c'est le même Esprit qui a changé votre cœur, qui est capable chaque jour de renouveler, de vous faire regoûter à cet amour de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13. Oh, j'ai pas mis ? Ah, merci. 2 Corinthiens 13, 13. Que le Seigneur, non, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion au Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. On a besoin de retrouver cette connexion spirituelle. Dernière référence, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est le Seigneur qui nous dirige. Vous connaissez tous ces symboles qu'il y a dans le temple, avec le lieu très saint, le temple, le parvis. Je me demande si moi, il n'y a pas des fois, je reste un peu sur le parvis et que je dis, ah, il est beau le temple, oh, les belles constructions. Nous ne sommes pas appelés à considérer le temple, nous sommes appelés et invités à rentrer dans le lieu très saint, mes bien-aimés. Ne nous contentons pas de dire, oh, c'est beau l'église, c'est beau la parole de Dieu, c'est beau, il faut être dans le lieu très saint, parce que c'est là qu'il y a l'onction, c'est là qu'est la présence de Dieu, c'est là donc que nous sommes appelés à être. Ne contentons pas de voir les choses de loin, nous sommes appelés à nous maintenir dans l'amour de Dieu. C'est là notre place. Ce qui fait une grande différence dans la vigueur entre chrétiens. Ce qui fait la grande différence dans l'enthousiasme, la vie spirituelle des chrétiens. Ce n'est pas forcément le nombre d'heures de prière. Bien sûr, c'est très lié. Mais ce qui fera une grande différence, c'est ce qui fait une grande différence. C'est cette connexion, se demeurer dans l'amour de Dieu. Amen. J'ai connu des gens qui passaient de longues heures dans la prière, mais ils n'étaient pas dans l'amour de Dieu. Et je connais des frères, des sœurs, oh, peut-être jugés comme moins spirituels, parce qu'ils connaissent un peu moins la Bible, parce qu'ils sont encore là dans des considérations que nous, ils remettent. Ouais, mon frère, ma sœur. Mais ils ont compris que quand ils prient, c'est pour rentrer dans l'amour de Dieu. Ils sont comme des mendiants de l'esprit. Ils se sentent eux-mêmes tellement faibles que dès qu'ils prient, ils disent « Seigneur, j'ai envie d'être rempli de ton amour. » Et là, ils se laissent renouveler. Et c'est des frères et des sœurs qui aiment. Ils ont une vigueur, ils ont un amour pour les choses. Ils ont un amour pour la parole de Dieu. Ils ont un amour pour leur prochain. Ils n'ont pas besoin d'une loi qui leur dit « il faut faire ». Comme ils se laissent remplir de cet amour jaillit naturellement. Alors que certains peuvent avoir des grandes apparences, des grandes connaissances, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Veillons à cela. Qu'à l'amour de Dieu, car l'amour que Dieu met dans notre cœur, ça se voit. Pas la peine de raconter n'importe quoi. L'amour de Dieu est inspirant. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Ça se dit ? Non. L'amour de Dieu est inspirant. C'est-à-dire qu'il suscite en nous des désirs, de l'inspiration, des envies. L'amour de Dieu en nous suscite de l'intérêt, une vigueur. L'amour de Dieu en nous Nourris nos temps de prière. Voulez grandir dans la prière, rentrez dans l'amour de Dieu.
Amen.
Parce que quand on est dans l'amour de Dieu, on n'a même plus envie d'en sortir, mes bien-aimés. Oh, mais moi, j'arrive pas à prier. Rentre dans l'amour de Dieu. Cherche ça. Cherche la présence de Dieu. Cherche à ce que ton cœur soit là, comme collé au cœur de Dieu. Laisse-toi envahir, transformer ce temps de prière aura une autre saveur. Tu vas trouver de la persévérance. L'amour de Dieu nous donne de la patience dans l'épreuve, mes bien-aimés. L'amour de Dieu nous donne de l'envie de témoigner. L'amour de Dieu nous donne de la bonté à l'égard de notre prochain. L'amour de Dieu nous donne de la douceur à l'égard du prochain. Et je ne vais pas citer toutes les références parce qu'elles sont multiples dans la parole. J'espère que dans votre lecture personnelle, ça fait référence à des passages. L'amour de Dieu nous qui est en nous, nous pousse au pardon, comme on l'a déjà dit. L'amour que Dieu met dans notre cœur nous donne de la force dans l'adversité. L'amour de Dieu nous fait rentrer dans cette joie surnaturelle.
Amen. Amen.
La joie du Seigneur sera votre force.
Amen.
Néhémie chapitre 8, verset 10. Certains ont perdu leur joie spirituelle parce qu'ils se sont déconnectés de l'amour de Dieu. Ce n'est pas nos applaudimètres, ce n'est pas le style musical ni comment c'est apporté qui apporte la joie du Seigneur. Et des fois on ressent rien, hein? Oui, il y a des fois il y a moins d'émotion, et c'est pas l'émotion qu'on a besoin, c'est l'amour de Dieu.
Amen.
C'est ce travail intérieur. Et lui, si à l'église on peut en goûter un petit peu, c'est surtout dans le secret de notre chambre qu'on y a cette douche, ce bain, cette imprégnation, ce bousculement intérieur. Et quand Néhémie dit « La joie du Seigneur est votre force », il ne le dit pas à un moment où tout va bien. Il le dit justement à un moment où c'est bien compliqué. Je voudrais justement terminer sur ce dernier point. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. N'oublions pas que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. L'amour de Dieu ne dépend pas du cœur de Dieu, parce que Dieu est amour. Il est la plénitude de l'amour. L'amour de Dieu dépend de l'ouverture de notre cœur à cet amour. Il y a une chose que j'ai apprise il y a quelques années. Avant que je me convertisse, j'étais anarchiste. Et j'avais compris que dans la vie, en tout cas, j'avais mal compris, mais la logique que je me disais, c'est que dans la vie, pour être fort, il faut se blinder. Il faut être dur. Il faut fermer nos cœurs à tout sentiment. C'est les sentiments qui nous rendent faibles, donc je blindais mon cœur. J'aurais pu vous lever de bonheur pour voir une seule larme couler de mon œil. J'ai appris que aimer, c'est savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir.
Amen.
J'ai connu dans une église une sœur dévouée, fidèle. Elle aimait le Seigneur, ça c'est immanquable. Toujours prompt à aider, à assister. Pourtant elle, si on voulait lui manifester un peu d'amour, un peu de compliment, oh non, 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 elle refusait. Elle voulait aider les autres, mais elle ne supportait pas qu'on puisse venir vers elle, lui manifester même un compliment. Oh non, non, non. Elle fermait son cœur. Elle acceptait de donner, mais elle refusait de recevoir. Peut-être est-ce que c'était une manière de se protéger. Peut-être, si on va un peu plus loin, que c'était une manière de se cacher, d'éviter de se dévoiler, de reconnaître qu'on est réellement. Jérémie, chapitre 20, verset 7. Jérémie a connu un ministère prophétique terrible, humilié, rejeté. On se moquait de lui. Et quand vous allez lire Jérémie, chapitre 20, c'est ce qu'il explique. J'ai été rejeté des miens. On se moque de moi. On m'insulte. On m'injurie. Vous êtes dans quel état de cœur quand on est comme ça? La joie du Seigneur est... C'est faux. On se sent là, sali, humilié. On est plus doux comme elle dit, oh Seigneur, je sais rien, prends ma vie, je dors maintenant. Et c'est normal. Et quand on lit là, Jérémie 20 et qu'il explique ça, vous savez, c'est lui qui a dit, es-tu pour moi une source trompeuse? Et il dit, Seigneur, tu m'as persuadé. Et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et dans ce mot persuader là, c'est pas seulement une question intellectuelle. Dans ce mot persuader, ça, il y a la notion de d'être séduit, d'être attiré. Ça pourrait aussi prendre l'esprit, vous savez, de celui qui a l'esprit assez simple et naïf pour se faire avoir. Vous savez ? Je me suis laissé persuader. Il y a tout qui faisait que je pouvais fermer mon cœur, mais tu m'as persuadé, tu as cherché à me séduire, tu as cherché à m'attirer, et je me suis laissé attirer à toi.
Amen, amen.
J'ai accepté d'être suffisamment simple et naïf pour capituler. D'où cette phrase, tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Tu as vaincu toutes ces barrières qu'il y avait au-dedans de moi. Tu as vaincu toutes ces forteresses qui faisaient que je n'acceptais pas l'amour de Dieu et que je n'arrivais plus non plus à communiquer de l'amour. J'ai cédé, j'ai capitulé, j'ai fléchi le genou. Je me suis laissé persuader, mes bien-aimés. Laissons-nous persuader par l'amour de Dieu, je vous en supplie. Laissons-nous saisir, laissons-nous remplir de l'amour de Dieu. Arrêtons de mettre ces barrières, ces résistances. Acceptons le séjour de notre chambre, de la visitation du Saint-Esprit. Laissons-nous toucher, imprégner. Laissons nos faux combats, nos pertes de raison. Laissons-nous élargir notre cœur. Il y a quelques belles images, vous savez, au psaume 22, il est parlé de ce cœur qui fond comme la cire au soleil. Il y a ces deux disciples d'Emmaüs qui disaient, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Paul va parler d'avoir un cœur qui s'élargit. Mes bien-aimés, pour passer de bonnes années, notre premier rendez-vous, il est là.
Amen.
Rappelez-vous, le jour où le Seigneur nous a convaincus la première fois, le jour où il est venu nous chercher dans notre misère. Rappelez-vous ces grosses larmes qui sortaient de nos yeux, hein ?
Amen.
Rappelez-vous ces grosses larmes qui coulaient et en même temps ce sourire qui... Dans notre chambre, on était tout seul chez nous. Il y avait ces tonnes d'eau qui remplissaient notre cœur. C'est là qu'on a dit, Seigneur, prends tout, je te donne tout, Seigneur. Alléluia. N'abandonnons pas ce premier amour. Il ne nous est pas dit qu'il faut de temps en temps puiser dans l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à nous maintenir. À nous maintenir dans cet amour que nous recherchons tous les jours. À être envahis, bousculés, chahutés, immergés. J'ai même envie de nous dire, mais laissons-nous nous noyer dans l'amour de Dieu. Et tout changera entre nous, avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle, dans nos luttes et dans nos combats où on transpire, où on pleure. Ne cherchons pas les larmes du combat, cherchons les larmes de l'amour, de la conviction de l'amour. Laissons-nous persuader. Amen.